Et le journal est présenté par Jean-Michel Naga. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le pape François, attendu au Japon, le souverain pontife va visiter Nagasaki et Hiroshima où il va plaider pour l'éradication des armes nucléaires dans le monde.
Autre visite plus polémique en Israël, un rabbin américain anti-sioniste. Les adeptes de cette communauté ultra-orthodoxe ne reconnaissent pas l'État israélien.
La marche contre les violences sexuelles et sexistes, deuxième édition à Paris et dans de nombreuses villes en France à l'appel du collectif Nous Toutes. Cette marche intervient deux jours avant la fin du Grenelle contre les violences conjugales. Vous en parlez ce matin avec votre invitée Caroline Brou.
Avec beaucoup de hauteur et de recul, ce recul de l'histoire avec le regard de l'historienne Michèle Perrault, l'une des pionnières de l'histoire des femmes qu'on est ravis d'accueillir dans ces matins.
28 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté, verdict de la cour d'assises spéciale de Paris hier soir à l'encontre de Bilal Taghir. Il avait poignardé deux surveillants de la maison d'arrêt d'Oni en 2016, une attaque considérée comme le premier attentat djihadiste en détention.
Et puis la cause animale sera un sujet de la campagne des municipales. À 4 mois des élections, l'association L214 interpelle en ce moment les candidats pour qu'ils se saisissent de cette thématique.
Peut-être un nouveau pays sur la carte du monde. L'île de Bougainville est aujourd'hui une province de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ses habitants votent aujourd'hui pour son indépendance ou pour une plus grande autonomie. Et puis la vigilance orange, toujours d'actualité dans le sud-est de la France. 11 départements présentent des risques d'orage, de pluie, inondations, de vents violents. Hier, une mini-tornade a causé des dégâts dans le Var. Hier, heureusement sans faire de blessés. Les prévisions météo à la fin de ce journal.
Après 3 jours en Thaïlande, le pape est donc attendu au Japon ce matin et le nucléaire sera au cœur de cette visite à Nagasaki et Hiroshima la nuit prochaine.
François devrait annoncer l'utilisation d'armes nucléaires, l'utilisation d'armes nucléaires, mais il devrait aller au-delà et ainsi confirmer une position encore plus ferme de l'Église sur le sujet, Bruce de Galzin.
François va dénoncer la dissuasion et la possession de l'arme nucléaire. Un pas que ses prédécesseurs n'avaient pas franchi. Jean-Paul II jugeait la dissuasion moralement acceptable. François cherche à éliminer totalement la bombe atomique. Son pouvoir est destructeur et lui fait peur. Il l'avait dit l'an dernier lorsque la Corée du Nord et les États-Unis tentaient de négocier. « J'ai peur d'une guerre nucléaire. Nous sommes à la limite », affirmait le pape. « Il y a vraiment ce risque. Un accident suffit pour précipiter la situation. » À Nagasaki et Hiroshima, François pourrait affirmer que la possession même de la bombe nucléaire est immorale et il devrait appeler les États qui la possèdent, comme la France, à abandonner l'arme nucléaire. Il y a 2 ans déjà, le pape s'était élevé contre la possession de la bombe atomique. Le Saint-Siège était alors l'un des premiers à ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. Depuis, les États concernés ont tenté de faire évoluer la position ferme de l'Église, mais François ne changera pas d'avis.
Reportage donc de Bruce de Galzin pour France Culture.
Autre visite plus polémique en ce moment en Israël, celle d'un rabbin anti-sioniste.
Pendant 10 jours, ce rabbin américain Zalman Teitelbaum fait une grande tournée en Israël à la façon d'une rockstar acclamée par des centaines de fidèles. Il est le chef spirituel de la communauté ultra-orthodoxe Satmar, répartie essentiellement entre les États-Unis et Israël, et qui a cette particularité, ses milliers d'adeptes ne reconnaissent pas l'État israélien, jugé impie en Israël. Les explications de Frédéric Mettezo.
Une marée de chapeaux et de manteaux noirs a envahi Jérusalem. Des milliers d'hommes accueillent leur chef spirituel arrivé par avion privé, car ils ne voyagent pas sur la compagnie nationale El Al. Les rues sont barrées, l'armée et la police mobilisées pour sa sécurité. Et pourtant, le rabbin Zalman ne reconnaît pas l'État israélien, fondé par les hommes et non par Dieu, comme il l'expliquait dans un meeting aux États-Unis juste avant son départ.
L'État d'Israël est le summum de l'impureté. Ensemble, nous allons continuer la bataille divine contre le sionisme sous toutes ses formes.
La plupart des fidèles boycottent l'hébreu, ils parlent le yiddish, ils ne votent pas, ne font pas l'armée et ne touchent même pas les aides sociales israéliennes. Voilà pourquoi, pendant sa tournée, lors de soirées caritatives et festives, le rabbin Zalman distribue des millions de dollars en chèques ou en virements. Mais des Israéliens protestent sur les réseaux sociaux. « Sommes-nous devenus fous ?» se demande une députée nationaliste de droite. Il n'aurait pas dû avoir l'autorisation d'entrer. Cet été, 2 élus démocrates au Congrès américain ont été interdites de séjour ici, car elles soutiennent le boycott d'Israël. Rabbi Zalman, lui, doit encore rester une semaine.
En Israël, Frédéric Mettezo pour France Culture.
Ils et elles marcheront cet après-midi contre les violences sexistes et sexuelles faites donc aux femmes.
La manifestation parisienne partira d'Opéra à 14h pour aller jusqu'à la place de la Nation, mais de nombreuses villes en France participent à cet événement. C'est la deuxième marche organisée par le collectif Nous Toutes après une première mobilisation l'année dernière. Et depuis, d'autres collectifs ont émergé. Des féministes font des collages quasi quotidiennement contre les féminicides dans les grandes villes et le gouvernement a lancé son Grenelle contre les violences faites aux femmes et le bilan cette année est en demi-teinte pour la porte-parole de Nous Toutes, Caroline Dehas.
Ce qui a changé en France, c'est la mobilisation de la société, qui est inédite. Ce qui a changé en France, c'est le niveau de conscience sur la question des violences sexuelles, on l'a vu avec le témoignage d'Adèle Haenel, ou sur la question des féminicides, avec rien que le fait que ce terme soit aujourd'hui utilisé dans les médias. Ce qui n'a pas changé depuis un an, c'est la détermination du gouvernement. Emmanuel Macron a toutes les cartes en main. Il a un consensus politique aujourd'hui autour de ces questions-là. Il a une mobilisation de la société inédite, notamment chez les plus jeunes. Qu'est-ce qu'il attend pour passer à l'acte? On a besoin d'1 milliard d'euros supplémentaires pour lutter contre les violences et on a besoin de mesures qui vont changer en profondeur les choses. Parmi ces mesures, le brevet de la non-violence à l'école de manière obligatoire sur le modèle de l'attestation de la sécurité routière, des places d'hébergement en nombre suffisant. Nous sommes en deçà des normes fixées par l'Union européenne aujourd'hui en France. La formation obligatoire de l'ensemble des professionnels qui sont au contact de femmes victimes, les forces de l'ordre, les professionnels de santé, les professionnels de la justice ne sont aujourd'hui pas formés à détecter l'urgence, à détecter les violences, à estimer le danger. Et puis nous avons également besoin que les outils existants dans la loi soient démultipliés. C'est par exemple le cas de l'ordonnance de protection, qui est un outil extrêmement efficace pour protéger les femmes victimes de violences et qui est aujourd'hui sous-utilisé en France.
Caroline Dehas, porte-parole du collectif Nous Toutes, invitée de France Culture ce matin pour évoquer cette mobilisation contre les violences sexuelles et sexistes, l'historienne Michèle Perrault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette mobilisation intervient, je le disais, 2 jours avant la fin du Grenelle sur les violences conjugales. Le gouvernement doit faire un ensemble de propositions dès lundi. Qu'en attendez-vous?
Que l'État remplisse son rôle. Il a des fonctions régaliennes, justice, police, justice, et chacun sait que les femmes qui font une main courante à la police ou portent plainte auprès de la justice, c'est difficile. Souvent parce que les personnels, police par exemple, ne sont pas suffisamment formés encore à cela. Ces femmes sont des victimes, certes, mais elles sont des personnes. Et je pense que ça, c'est très important. Et puis d'autre part, l'État a un rôle à jouer avec les associations. En collaboration avec les associations, peut-être pas, la main dans la main, je ne sais pas, chacun doit garder son rôle. Mais je voudrais saluer au passage Nous Toutes et Caroline Dehas, leur action est remarquable. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une mobilisation de cet ordre-là, ça me rappelle des années très anciennes. Et c'est vrai que le corps des femmes, les violences sur les femmes sont là au cœur, et il y a une prise de conscience dont elles sont porteuses, et on peut attendre du Grenelle de l'environnement que l'État lui-même prenne conscience de cela.
Et je précise que le collectif Nous Toutes demande davantage, notamment 1 milliard d'euros de budget pour lutter contre ces violences sexuelles et sexistes. Merci Michèle Perrault, on vous retrouve dans un instant. Sur cette actualité, n'hésitez pas à consulter notre site internet, dossier complet à lire sur franceculture.fr.
France Culture 8h09, suite du journal de Jean-Michel Naga. 28 ans de réclusion criminelle, verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris hier soir à l'encontre de Bilal Taghir.
Il avait attaqué et poignardé 2 surveillants du quartier dédié à la déradicalisation à la maison d'arrêt d'Ony dans le Val d'Oise où il était détenu en 2016. 28 ans donc, assorti d'une période de sûreté des 2/3, l'avocat général avait requis la perpétuité en soulignant la dangerosité mais aussi la duplicité de l'accusé. Son avocat, Xavier Nogueras, estime que la Cour a su placer cette peine sur une échelle équitable.
Il y a beaucoup de procès qui vont arriver. Le procès du 13 novembre, le procès de Charlie Hebdo et une succession d'actes terribles qui ont été perpétrés sur notre territoire en 2015 et 2016, on les connaît tous, avec beaucoup d'individus qui vont comparaître pour des faits qui seront nécessairement placés sur une échelle. Il faut faire des gradations dans ces actes-là et surtout en fonction des positionnements des individus. Donc oui, c'est une, encore une fois, aujourd'hui, c'est un acte terrible et on n'élude pas du tout la souffrance de ces victimes. Vraiment, du côté de la Défense, on en prend conscience depuis le premier jour de notre rencontre avec M. Tagui. Et on veut croire, on veut avoir un espoir en l'être humain. Et on veut croire que tout homme est perfectible. Il a de longues années devant lui pour réfléchir à son acte. Il n'en est qu'au début de son évolution, ce garçon. Mais il n'a que 27 ans et on ne peut pas imaginer une seconde qu'il reste enfermé dans ce fanatisme toute sa vie.
Xavier Noguera, l'avocat de Bilal Taguir, propos recueillis par Florence Turme. L'accident de Brétigny-sur-Orge en 2013, l'une des pires catastrophes ferroviaires en France, 7 morts, des dizaines de blessés. Eh bien, le parquet d'Evry a requis hier un procès pour homicide et blessures involontaires à l'encontre de la SNCF et d'un cheminot qui était à la tête d'une brigade chargée de l'inspection des voies. C'est lui qui avait réalisé la dernière vérification 8 jours avant la catastrophe. Les juges d'instruction vont maintenant décider de les renvoyer ou non devant le tribunal correctionnel. La cause animale sera bien un sujet de la campagne des municipales dans 4 mois. L214 fait tout son possible pour imposer ce débat à l'association qui dénonce régulièrement des cas de maltraitance animale avec des vidéos clandestines dans les abattoirs. Et bien en ce moment, ces militants interpellent les candidats pour qu'ils se saisissent de cette thématique de la protection animale. Des actions sont prévues cet après-midi dans plusieurs villes comme à Rouen, Nancy, Biarritz, Lyon et Toulouse, Pierre Neveu.
Des agneaux saignés encore conscients, des veaux malmenés à coups de pieds et de poings, des vaches à hublots dans une ferme expérimentale de la Sarthe. Ces images de maltraitance animale provoquent un électrochoc dans l'opinion et cela s'est traduit dans les urnes lors des élections européennes où le parti animaliste a recueilli plus de 2% des voix, 490 000 suffrages. Pas étonnant donc aujourd'hui que des associations demandent aux élus et aux candidats de s'engager, mais les promesses de campagne ne suffiront pas, explique Erwin Schilknecht, chargé d'affaires publiques au sein de l'association L214.
Le but, c'est de montrer aux citoyens qui s'intéressent à la condition animale quels sont les candidats qui se positionnent sur la question. Et nous ferons évidemment un suivi de ces engagements. Le but, ce n'est pas juste de récolter une signature. Nous allons surveiller ce qui est vraiment pris en compte dans les programmes. Et par la suite, une fois les élections passées, quels sont les élus qui seront fidèles aux engagements qu'ils auront pris.
Localement, des élus prennent des initiatives, comme à Pessac en 2016, où le maire, sans étiquette, Franck Rénal, a décidé d'interdire sur sa commune des cirques avec animaux sauvages.
Depuis que j'ai pris cet arrêté, beaucoup de gens m'en parlent. Encore il y a 2 jours, j'avais un conseil municipal des enfants, j'ai été soutenu par une maman qui a dit « j'espère que vous n'allez pas lâcher sur cet arrêté ». Et donc ce qui montre que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine. Et dès lors qu'un élu porte cette parole-là, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à le suivre.
Mais cette cause du bien-être animal avance lentement au niveau national. En 2015, le législateur a donné un nouveau statut juridique aux animaux. Ils sont reconnus comme des êtres vivants et sensibles, mais ils sont toujours dépourvus de régimes juridiques spécifiques.
Précision de Pierre Neveu. L'île de Bougainville va-t-elle devenir un nouveau pays sur la carte du monde? Cette province de Papouasie-Nouvelle-Guinée vote aujourd'hui pour son indépendance ou simplement une plus grande autonomie. C'est un référendum qui se tient sur plusieurs jours jusqu'au 7 décembre. Bougainville est une petite île qui compte près de 300 000 habitants dans l'océan Pacifique. Elle doit son nom au célèbre navigateur français qui l'a découverte au XVIIIe siècle. Ce vote pourrait bien ouvrir la voie à l'indépendance de Bougainville. Franck Madvon.
C'est une guerre civile méconnue. Elle a fait 20 000 morts à Bougainville dans les années 80-90, un dixième de la population de l'époque. Le conflit le plus sanglant dans le Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale. Les séparatistes affrontaient alors les forces du gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a fallu attendre 2001 pour un accord de paix qui prévoyait l'organisation d'un référendum. Ce vote est un défi dans cette île très pauvre où 90% des habitants se trouvent en zone rurale. Vivre à Bougainville, c'est s'habituer aux coupures de courant, aux infrastructures défaillantes, aux caprices de la météo. L'île a longtemps appartenu à l'Australie, avant de rejoindre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975, quand elle est devenue indépendante. Aujourd'hui, c'est elle qui rêve d'indépendance. Même s'il n'y a pas de sondage, l'issue du vote ne fait guère de doute. Les habitants de Bougainville veulent couper les liens avec la Papouasie, mais ce référendum n'est pas contraignant et le gouvernement papouasien craint que l'émancipation de Bougainville ville, riche en cuivre, ne donne des idées à d'autres provinces. Cela dit, un vote massif en faveur du oui donnerait un élan incontestable à l'indépendance. Les résultats sont attendus à partir de la mi-décembre. La balle sera alors dans le camp du Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui pourrait prendre plusieurs années avant de renoncer à Bougainville.
Franck Madvon pour France Culture. Vigilance orange, toujours d'actualité ce matin. Des risques d'orages, de pluie, inondations, de vents violents dans 11 départements du sud-est de la France, sur le reste de l'Hexagone. Le temps est maussade, les températures sont stationnaires ou en légère hausse, 8 à 16 degrés.